Bonjour à tous, je suis Patrick Sauss, éditorialiste international à BFM TV. Au temps de l'URSS, c'était l'un des principaux moyens pour le Kremlin d'asseoir son pouvoir. Avec la guerre contre l'Ukraine, la délation a fait son retour en Russie. Chasse aux opposants, traque des messages contraires aux valeurs chères à Vladimir Poutine, nous voici précisément dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous retrouvons le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Alors tu vas nous raconter une conférence de presse à laquelle tu as assisté ce matin à Moscou. Une conférence de presse avec beaucoup de monde, semble-t-il, parce que tu vas nous parler d'une personnalité très connue en Russie pour une raison. Explique-moi.
Oui, Ekaterina Mizulina, c'est le genre de personnage qu'on commence à retrouver un peu partout en Russie, qui commence à monter. C'est alors déjà, soit dit en passant, la fille d'une députée et d'une politicienne russe qui a fait toute sa carrière, évidemment, on le comprend, en soutien à Vladimir Poutine. Et en fait, cette jeune femme, elle a été nommée, je regardais tout à l'heure, en 2017. Donc, ça fait déjà quelques années qu'elle existe, mais disons qu'elle vient d'exploser sur les réseaux sociaux. Elle a été nommée directrice de la Ligue russe pour un Internet sûr. Donc, dans le contexte de la guerre, de la propagande militaire, on imagine bien ce que ce genre de choses veulent dire. Petit détail que j'ai remarqué dans cette conférence de presse aujourd'hui, elle est arrivée protégée par un garde du corps qui sont pas n'importe qui. Ces gardes du corps, c'est pas de la sécurité privée, c'est le FSO, c'est le service de protection des hautes personnalités dont le siège est basé au cœur du Kremlin, qui est chargé de la protection, en gros, de Vladimir Poutine et de tout son entourage. Et donc, on comprend, rien que par ce garde du corps, en fait, que cette femme est en train de devenir quelqu'un d'important dans le système russe, parce que ou bien son travail aujourd'hui, c'est de dénoncer tout ce qui ne lui plaît pas, en gros, sur Internet. Laurel, elle appelle ça tout ce qui met en danger la jeunesse russe, notamment, parce que c'est vraiment la jeunesse qui est visée par ces actions. Mais dans les faits, voilà, l'objectif, c'est bien de contrôler Internet et ce qui est publié. Et donc, c'est intéressant parce que cette femme, elle nous a montré des graphiques ce matin, et notamment parce que, bon, moi, je me suis rendu à cette conférence dans le but de comprendre politiquement ce qu'elle défendait, parce que, dans le principe, défendre la sécurité sur Internet, c'est quelque chose qui est plutôt louable. Elle se bat notamment contre l'accès des jeunes à la pornographie, contre tout ce qui est de l'ordre de la violence, de la vente de drogue, du terrorisme. Donc ce sont des combats qu'évidemment on peut tous comprendre. Et je voulais notamment comprendre quelle forme prenait la lutte contre des idées politiques qui ne leur plaisent pas, parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne dit pas les choses telles quelles en Russie. On n'en est pas à dire... on censure les opposants, on censure les discours qui ne nous plaisent pas. Il y a tout un vernis autour, il y a tout un langage qui est utilisé. Je peux te citer quelques termes qui ont été utilisés. En fait, ce sont donc ce qu'elle recherche avec les gens qui la soutiennent sur Internet, donc la pornographie infantile, tout ce qui est de l'ordre des drogues, tout ce qui est de l'ordre des fakes. Et donc là, déjà... C'est intéressant parce que les fakes, c'est sujet à interprétation, notamment beaucoup, enfin particulièrement en Russie. Et ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est les matériaux extrémistes, comme on les appelle en Russie. Ce qui, en fait, quand on pousse la logique assez loin, nous mène à l'Ukraine et à tout ce qui est lié à la guerre en Ukraine, parce que quand vous soutenez l'Ukraine, c'est considéré comme de l'extrémisme. Quand vous émettez une critique ou même un appel à arrêter la guerre, c'est considéré, selon la loi russe, comme de l'extrémisme. Et donc, on comprend que c'est dans cette catégorie-là, qui est située juste au-dessus de la propagande LGBT, que cette femme participe au combat, on va dire, contre l'opposition politique sur Internet.
Alors, je comprends qu'il y a ces avertissements, mais on va rentrer aussi dans l'autre partie du combat, qui est de dénoncer. C'est là qu'on arrive dans la délation. Lorsqu'on parle de ça, on pense à des époques relativement sombres, y compris chez nous, en France. Tout de suite, un courrier signé à un bon français ou un bon russe, quelques coups de fil anonymes. Là, on est passé à la délation 2.0 avec elle.
Oui, exactement. Et c'est ce qui est fascinant parce que cette femme, c'est vraiment un personnage. Hein. C'est typique du système Poutine de nos jours, quoi. C'est en gros, désolé de dire comme ça, mais une jolie blonde très apprêtée qui passe bien à l'image. Et d'ailleurs, elle, en fait, sa célébrité, elle la doit grâce à TikTok et aux réseaux sociaux de manière générale. Elle est connue pour, alors désolé de le dire comme ça, mais son air complètement débile et sa voix assez insupportable. Elle parle sur un ton monotone. Et en fait, elle fait des vidéos complètement absurdes qui, visiblement, plaisent particulièrement à un public en Russie qui est le public adolescent. Et quand je dis absurde, c'est vraiment elle est capable, comme certains adolescents doivent le faire d'ailleurs, de se filmer pendant des minutes et des minutes en train de raconter des choses qui n'ont complètement aucun intérêt, de raconter comment elle se maquille, de raconter comment elle vit, enfin des choses assez hallucinantes venant de quelqu'un qui est censé représenter désormais l'État russe d'une certaine façon. Et donc cette femme, et c'est ce qu'elle nous a expliqué lors de cette rencontre, elle mène ce combat sur Internet, donc elle est au fait de toutes les tendances des jeunes générations russes, de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. On a notamment parlé des streamers ce matin, parce qu'elle elle essaie de combattre ceux qui sont partis vivre à l'étranger et qui font dont des streams pour ceux qui connaissent. Il y a notamment le site internet Twitch qui permet donc de faire des directs pendant des heures et des heures. Et donc, il y a des gens, visiblement des Russes, qui vivent à l'étranger et qui en font une sorte de plateforme politique, ce qui lui déplaît parce qu'ils sont basés à l'étranger. Et elle essaie justement de censurer ce genre de discours. Donc ça, c'est pour la partie en ligne. Et puis, il y a la partie physique, c'est-à-dire qu'elle mène un combat sur le terrain. Elle va à la rencontre des collégiens, lycéens, en tout cas leur équivalent russe. Elle va dans les établissements scolaires partout en Russie pour essayer de leur expliquer ce combat. Et je voulais qu'on parle de cette femme aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois que je vois des vidéos depuis quelques mois de cette femme donc en visite dans certaines villes. Et en fait, elle y est accueillie comme une rockstar par la jeunesse. Et en fait, c'est pas anodin parce qu'il faut quand même rappeler qu'en Russie, il y a quelques années, et en Occident, les Occidentaux misaient beaucoup sur le fait que l'avenir de la Russie, c'était une jeunesse qui avait toujours connu Vladimir Poutine et qu'on imaginait se fatiguer du président russe et de ses idées, qu'on imaginait grâce à Internet, s'informer autrement. Et en fait, cette femme est en train de devenir un peu le symbole d'une jeune génération qui finalement, elle aussi, sombre. Dans le même état d'esprit, la même vision de la Russie totalitaire que le reste de la population. Et donc, il y a ces images où on voit ces jeunes en conférence lever la main pour lui poser des questions. Il y en avait encore une ce matin, d'ailleurs, qui était à la conférence de presse, pour demander, en gros, comment il fallait faire pour dénoncer quelqu'un. Et voilà, comment il fallait s'y prendre, à qui il fallait en parler. Et c'est forcément assez choquant de voir une jeune génération plongée dans ce genre de choses que les anciennes générations ont, elles, déjà connues, comme tu le rappelais, en URSS.
Oui, mais c'est ça qui est fou. Moi, je l'ai déjà expérimenté en reportage en Russie, mais aussi à l'époque dans le Donbass ukrainien, où il y avait toujours la petite vieille qui vous regardait d'un drôle d'air derrière une fenêtre, et on savait qu'elle allait vous dénoncer
très
parce que vous filmiez. Et 5 minutes plus tard, la police arrivait, et on était très énervés, en fait. Plus qu'apeurés, on était très énervés parce qu'on avait été dénoncés, on trouvait ça très, très lâche. Mais là, encore une fois, tu me parles d'adolescents qui ont, on a sur le langage TikTok, qui a des do-it-yourself pour dénoncer, c'est ça?
C'est ça. Ou en gros, l'objectif, c'est de leur expliquer ce qui est considéré comme négatif pour la société, ce qui est considéré comme étant positif pour la société. Et donc, il y a tout un discours politique derrière, Le rap, c'est mal, la drogue, c'est mal, la pornographie, c'est mal, mais également les idées qui vont à l'encontre des idées, on va dire, officielles, ou en tout cas de la ligne officielle, et qui seraient motivées par des militants ukrainiens, bah, c'est mal, il faut les combattre. Et donc, si vous avez des gens autour de vous qui tiennent des discours qui vont à l'encontre de la ligne officielle, eh bien, c'est peut-être que votre ami, votre camarade est en train d'adhérer à une cinquième colonne et qu'en gros, pour protéger votre famille, pour vous protéger, vous, la patrie, il faut dénoncer cette personne. Comment? En écrivant à cette ligue qui ensuite dénonce, alors ensuite peut demander à Roskomnadzor, qui est le gendarme de l'Internet russe. Qui est le censeur même de l'Internet, donc ils peuvent leur demander de bloquer un site Internet ou de faire une demande de blocage de certains messages. Et ça peut aller jusqu'à l'écriture d'une lettre envoyée au procureur s'il s'agit de quelqu'un qui est situé sur le territoire russe. Et derrière, ce sont des gens que nous, on retrouve au tribunal, des gens qui ont écrit sur leurs réseaux sociaux des choses anti-guerre ou un petit peu critiques et qui ne s'attendaient pas à être dénoncés par quelqu'un.
Ça se fait à, je dirais, à grande échelle, tout ça?
Oui, alors ça, c'est comment dire, ça a évolué depuis le début de la guerre. Il faut vraiment rappeler que au premier jour du conflit en 2022, Vladimir Poutine avait appelé à la délation. Il avait dit tous ensemble, on recrachera les moucherons qui sont entrés dans notre bouche. Et c'était en développant la chose, c'était un appel à la délation et à la mobilisation donc des citoyens pour détecter au sein de la société tous ceux qui ne tiennent pas les bons messages, qui ne défendent pas les bonnes positions. Et ce qui était intéressant alors, c'est que ça n'avait pas vraiment pris cette demande de Vladimir Poutine. Je dirais que pendant la première année de guerre, voilà, on ne ressentait pas particulièrement d'effet dans la société. Alors, il y a un personnage qui est né en Crimée, qui a lancé une page sur un réseau social où lui commençait à faire beaucoup de délations, donc en indépendant un petit peu, où il trouvait des gens sur Internet qui n'avaient pas le bon point de vue sur la Crimée à son goût, et ensuite il appelait la police et il accompagnait les policiers sur place pour aller arrêter les gens. Donc, il y a deux, trois petites initiatives comme ça qui sont apparues dans le pays, mais jusqu'ici, enfin, pendant la première année de guerre, dirons-nous, c'était assez peu visible. Et là, depuis quelques mois, c'est très visible. J'ai l'impression assez massif. Les gens font très attention quand ils parlent. Ça peut être vraiment, vous pouvez parler. Bah, il y a eu cette histoire, d'ailleurs, c'est important d'en parler récemment, d'une personne âgée, un vieux grand-père tout fragile qui était dans un bus de Moscou et en passant devant la Loubianka, le siège du FSB, il aurait fait une remarque critique envers l'armée russe ou les soldats de Wagner, j'ai plus le détail en tête, et les autres passagers lui sont sautés dessus. Pour voilà, lui attraper le bras, lui presque casser le bras, enfin, ils l'ont vraiment violenté, et pour l'emmener au premier camion de police qu'ils ont croisé. Les images ont été filmées et elles ont choqué, donc pour la première fois, enfin, en tout cas, c'était un des rares cas où ce sont les agresseurs qui ont été arrêtés par la police et non pas le vieux monsieur qui a été laissé tranquille parce que c'était vraiment un très vieux monsieur. Mais voilà, on a ce genre de situation aujourd'hui et je voulais aussi te raconter qu'il y a à peu près une bonne année, il me semble, il y a des opposants russes qui avaient créé un logiciel, enfin une application plutôt, pardon, dont les couleurs, le thème, la charte graphique ressemblaient beaucoup à celle des services de l'État. Et en gros, c'était une application qui devait servir à la délation. Et en fait, la personne qui a créé ça pour dénoncer justement la délation s'est retrouvée à recevoir mais des centaines et des centaines de messages de gens qui dénonçaient leurs voisins. Et lui s'est rendu compte par cette initiative de l'ampleur des choses et voilà, d'à quel point les gens sont capables de revenir à des choses qu'on a déjà connues en URSS. C'est des choses dont on parle ici, à l'époque, si tu voulais récupérer le terrain du voisin ou l'appartement du voisin ou un bien qui appartenait à un ami à toi, et ben, tu allais l'accuser de quelque chose auprès de la police et puis derrière, Tu t'en étais débarrassé, tu pouvais le récupérer. Et il y a ce genre de choses qui réapparaissent aussi, des gens qui veulent récupérer des biens et qui se débarrassent de leurs amis ou leurs voisins de cette façon-là, quoi.
Au-delà de ces exemples-là, est-ce qu'il y a quelque chose de culturel? Je balaye vraiment devant ma porte parce que en France, on a eu quand même quelques exemples. En fait, moi, l'un de mes films préférés, c'est un film de Bertrand Tavernier qui s'appelle L'horloger de Saint-Paul. Et je ne vais pas raconter l'histoire, mais il y a notamment Jean Rochefort qui joue un policier qui parle à Philippe Noiret, dont le fils est recherché par la police. Et je me souviens parfaitement de cette phrase. On était dans les années 70. La France est un curieux pays, 50 millions d'habitants et 20 millions de dénonciateurs. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes. J'ai le souvenir incroyable pendant le Covid chez nous d'un commissariat du nord-est de Paris qui avait dû faire un message sur les réseaux sociaux pour dire arrêtez de nous appeler pour dénoncer vos voisins, on a des choses plus importantes à faire. Donc, c'est pour ça que je dis il y a parfois quelque chose de culturel. Est-ce qu'on est dans ce domaine-là en Russie, ou est-ce que c'est vraiment parce que le pouvoir de tout temps, j'ai envie de dire, a mis sa petite graine dans la tête des gens?
Oui, bah écoute, en fait, moi, comme correspondant en Russie, j'ai l'impression comment dire, de vivre ce qui mène à la délation, et donc d'en comprendre un peu les ressorts, on va dire, dans le sens où tout ça est finalement assez logique quand on vous explique toute la journée qu'il existe des ennemis de l'intérieur, qu'il y a une menace, même de façon plus large, une menace existentielle pour la Russie, et que tenir un discours contraire à celui de l'armée russe et celui du Kremlin, ça veut dire combattre avec l'ennemi, ça veut dire mettre en danger ton pays. En fait, je comprends la logique de ceux qui sont nourris à ça toute la journée, et qui entendent des gens, finalement, de leur point de vue, mettre la patrie en danger en tenant des discours qui peuvent diviser, notamment diviser politiquement, ce qui est une grande crainte en Russie. Eh bien, certains, je pense, enfin, ce sont des réflexes qui sont revenus très vite, hein, donc c'est pour ça que je suis tenté aussi de te répondre que c'est culturel en Russie, parce que c'est vraiment quand même revenu à une vitesse assez importante, mais. Voilà, comment dire, il y a de la peur derrière, il y a une envie de bien faire, et c'est d'ailleurs très intéressant. Enfin, c'est moi ma première leçon en Russie quand on interroge des gens qui justement font dans la délation. En fait, ils sont persuadés d'être du bon côté de l'histoire, et donc quand on est persuadé d'être du bon côté de l'histoire, on dénonce ceux qui ne sont pas du bon côté de l'histoire. Et donc eux ne voient pas le mal, et eux sont les premiers, hein, à dénoncer la délation. Mais ils considèrent qu'ils font une chose qui est positive pour leur pays et qui leur permet de protéger leur pays. Donc il y a plus de regard critique sur tout ça. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui devient vraiment très radical parce qu'il n'y a vraiment plus aucune capacité de la part de cette population aujourd'hui d'entendre le moindre discours qui irait un peu à l'encontre de la ligne officielle. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent de plus en plus. La moindre nuance aujourd'hui peut être vue comme quelque chose qui prouve son appartenance aux idées de l'ennemi. Et donc, bah, voilà, toute cette radicalité entraîne toujours plus de délation dans la société, à mon avis.
On est quasiment dans 1984, tu es en train de m'expliquer que la réflexion est en train d'être totalement abolie dans ce pays. Deux grandes réflexions, deux grandes cultures, deux grandes littératures qu'est la Russie.
Exactement, exactement. Moi, j'en ai encore eu l'expérience il y a quelques jours où je me suis retrouvé en difficulté dans une ville puisque j'avais plus de train, plus de bus pour rentrer à Moscou, et donc j'ai dû partager une voiture avec plusieurs personnes. Et le conducteur s'est avéré être ce qu'on appelle en Russie un Z-patriote. C'est vraiment ces gens radicaux qui soutiennent la guerre de façon très radicale. Et ça a été donc 4 heures de route particulièrement pénible parce que j'ai compris, enfin, c'est une sensation que j'ai d'ailleurs de manière générale, que en fait, ces gens tiennent exactement le même discours que celle de Vladimir, que ceux de Vladimir Poutine ou que c'est les discours de la propagande russe, sans aucune différence, et qu'ils le tiennent. Alors, bon, ils répètent ce qu'ils ont entendu à la télé, mais derrière, il y a des vraies idées qu'ils défendent. Et le fait qu'il n'y ait plus de différence entre ce qu'eux pensent et ce que la propagande leur raconte. Et je pense que c'est un stade qu'on est en train d'atteindre en Russie. Je trouve effectivement ça très effrayant parce que, alors là, enfin, il y a encore moins de réflexion qu'avant parce que du coup, la propagande, elle va diffuser des messages qui étaient déjà acquis avant par la population. Et donc, tout le monde va, on va dire, glisser sur cette propagande et les choses rouleront encore plus facilement pour le président russe. Donc, c'est assez effrayant et même en tant que journaliste, je me pose la question, moi, de ce que je vais pouvoir raconter, parce qu'en fait, si j'ai des gens qui me répètent mot pour mot ce que j'ai déjà entendu de la part de Vladimir Poutine, le seul constat que je vais pouvoir faire comme journaliste, c'est que toute la population est rassemblée derrière le président russe, que tout le monde pense de la même façon dans ce pays, et que voilà, c'est à nous d'en prendre acte en Occident, qu'on a cette population-là qui est en face de nous et qui est effectivement en train de devenir hostile, qui va nous expliquer, c'est déjà le cas et c'est encore arrivé dans cette voiture, que la France va se faire bombarder avec une bombe nucléaire, que tout le monde doit se faire rééduquer en Occident parce que on a une façon de vivre qui n'est pas correcte et qui n'est pas convenable. Je pense que ça, ce sont des discours qui, enfin, tu sais, je me lance jamais dans majoritaire ou minoritaire, mais qui vont quand même devenir de plus en plus présents dans la société russe, à mon avis.
Eh bien, cette perte de libre arbitre, c'est vraiment effrayant, d'autant que tu m'as donné vraiment des exemples très concrets, et pas simplement une image un peu générale de la Russie, mais c'est pour ça que je t'appelle toutes les semaines. Et donc, je te dis à mardi prochain, Paul. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur BFM Radio, bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt!